VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Nouakchott, 14h à Niamey, bienvenue à notre journal. En Mauritanie, le président Mohamed Oul Abdelaziz a de nouveau remanié son gouvernement avec le départ de 5 ministres, dont ceux des Affaires étrangères et de l'économie. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'Agence mauritanienne d'information. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération est désormais confié à Isselkou Ould Ahmed Izid Bi en remplacement de Hamadi Ould Emeimou, nommé en septembre dernier, qui quitte le gouvernement. M. Ould Ahmed Izid Bi était auparavant président de l'autorité de régulation de la téléphonie. Au Sénégal, l'exercice militaire annuel Flintlock a commencé lundi. Près de 1700 membres des forces spéciales d'une trentaine de pays d'Afrique, d'Amérique et d'Europe y prennent part. Le maître mot de cette formation est la coopération régionale entre les États d'Afrique de l'Ouest face à la menace djihadiste. Maëly Segal.
Combattre le terrorisme est en effet au cœur de la formation Flintlock. Le commandant des opérations spéciales américaines sur le continent africain, le général Donald Bolduc, a souligné plusieurs fois la nécessité de contrer la version des faits du groupe État islamique, son califat, ses actes au nom de la religion, ainsi que ses instruments de recrutement. Ces 12 derniers mois, les djihadistes ont été de plus en plus actifs. Les différents groupes ont désormais la possibilité de se rassembler pour combattre, mais aussi de se disperser en éléments plus petits pour lancer des attaques de type asymétrique. Le général Donald Bolduc a insisté sur l'utilité d'avoir un dispositif global bien équilibré entre le militaire, le policier et le non-sécuritaire. Pour la première fois depuis sa création, Flintlock axe sa formation autour de la connexion de la police au pouvoir militaire afin de réagir plus promptement à des possibles attaques terroristes. Depuis 2005, Flintlock est organisé par l'AFRICOM, le commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique. Cet exercice vise à accroître la sécurité en Afrique de l'Ouest et promouvoir l'échange multilatéral des informations entre les nations.
Au Niger, l'élection présidentielle se tiendra le 21 février. 15 candidats sont en lice. Lancée fin janvier, la campagne suit son cours avec cependant des interpellations d'opposants, ce qui inquiète la société civile, y compris l'association Alternative Espace Citoyen. On écoute son président Moussa Tchangaï.
Le maintien en détention d'un des candidats de l'opposition, en l'occurrence M. Hama Amadou, ainsi que les chants d'une victoire annoncée du président sortant au premier tour, sont les principaux ingrédients du climat des tensions politiques actuelles. Cette situation a conduit les partis politiques de l'opposition à ne pas signer le code de bonne conduite proposé par le NDI.
Moussa Tchangaï, président de l'association Alternative Espace Citoyen au Niger. Et au Tchad voisin, le président Idriss Déby Itno a été choisi par son parti, le Mouvement Patriotique du Salut, comme candidat à la présidentielle du 10 avril. Au pouvoir depuis qu'il a renversé Hissène Habré en 1990, le leader tchadien a déjà été élu président 4 fois. Plus de détails avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmajingar.
Aussitôt investi, Idriss Déby Itno qualifie ses adversaires de rigolos puisqu'ils n'ont pas de poids politique pour faire face à lui. Il promet donc la victoire dès le premier tour, alors que la société civile dans son ensemble, à l'exception de celle proche du pouvoir, exige sa démission dans plusieurs sorties médiatiques. Le secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salut, parti au pouvoir, Emmanuel Nadingar, loue les mérites de son candidat.
Notre parti n'a que s'inquiéter de sa victoire car notre candidat est le profil idéal.
À ce jour, 7 candidats sont déjà investis pour accéder à la magistrature suprême. André Kodumadjingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Guinée, les radios, télévisions et journaux en ligne n'ont pas fonctionné mardi en réponse à une journée sans presse voulue par les journalistes. Nos confrères guinéens protestent contre la mort par balle d'un des leurs vendredi dernier lors d'une dispute politique entre militants du parti d'opposition UFDG. Le point avec Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
La journée sans presse demandée par les journalistes guinéens a atteint son objectif. Les radios privées éteintes, les radios d'État sans programme, les sites internet bloqués avec une seule page qui affiche la photo du journaliste tué vendredi. Une action que comprennent les Guinéens.
Si l'acte là continue, aucun jeune dans le pays ne veut être journaliste.
C'est vraiment un signe fort qu'ils sont en train de lancer à l'endroit du gouvernement et à l'endroit des partis politiques en question.
Pourquoi toujours les journalistes? Donc il est évident qu'ils partent jusqu'au bout de leurs idées. Donc je crois qu'ils sont obligés de forcer la situation afin qu'ils atteignent les objectifs.
Nous comprenons cette décision parce que en fait, les assassinats comme ça, faudrait lutter pour arrêter ça.
Même si les Guinéens adhèrent au combat des journalistes pour la justice, certains semblent défendre leur droit à l'information.
Franchement, en tant qu'auditeur d'une fréquence, je trouve que c'est pas tout normal. Parce qu'aujourd'hui, généralement, moi, j'écoute la radio. Et si aujourd'hui, il n'y a pas la radio, et comment je peux écouter? Comment je peux m'informer?
Une journée sans presse, c'est comme une journée sans vie. La presse ne m'informe pas. C'est comme si on était dans l'obscurité.
Une journée étouffante, hein? On peut le dire. Parce que sans la radio, c'est pas du tout bon. Il y a d'autres qui n'ont pas le temps de suivre la télé, mais avec la radio, on peut suivre toutes les informations. Donc une journée sans presse, moi je trouve que c'est une journée morte.
C'est un peu difficile pour nous de rester comme ça, les oreilles bouchées.
Après une marche, après une journée sans presse, les journalistes guinéens ont décidé de bouder toutes les activités de l'UFDG jusqu'à ce que le tireur soit mis à la disposition de la justice. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Afrique toujours, l'économie de plusieurs pays producteurs de pétrole est affectée par la chute des prix et le premier producteur d'or noir en Afrique, le Nigeria, ne fait pas exception. Les analystes prédisent donc une année difficile, Jacques Aristide.
Pour l'analyste rwandais, l'actuel prix du pétrole pourrait contraindre le gouvernement à retarder une partie de ses projets. Si les promesses attendent d'être concrétisées alors que le gouvernement dépense de l'argent sur des projets luxueux et grandioses, nous nous retrouverons alors avec une crise. Mais si le gouvernement est perçu comme étant austère et judicieux dans ses dépenses, retardant la réalisation de ses promesses jusqu'à ce que notre situation financière s'améliore, vous pouvez alors vous en tirer d'affaire. Soutient Rewane. Le bas prix du pétrole peut mettre à mal l'agenda du président Buhari. Mais d'après ONI, cette situation pourrait également inciter le gouvernement à apporter des changements majeurs dans l'industrie pétrolière. Ces changements comprennent notamment la fin du régime de subvention du carburant qui, selon des détracteurs, entraîne le gaspillage et la corruption. Changement également pour la réforme de l'entreprise publique, la Nigerian National Petroleum Corporation.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élection primaire présidentielle ici aux États-Unis. Le républicain Donald Trump et le démocrate Bernie Sanders ont largement remporté hier les primaires présidentielles du New Hampshire. L'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton essuyant une première défaite cuisante côté démocrate dans cette campagne plutôt imprévisible. Des détails avec Thomas Kamilindi, envoyé spécial de la Voix de l'Amérique dans le New Hampshire.
Chez les démocrates, c'est sans surprise, comme les pronostics l'avaient annoncé, Bernie Sanders vient en tête très très largement avec 59-60% des voix contre 39-40% pour Hillary Clinton. Tandis que chez les républicains, comme les pronostics aussi l'avaient annoncé, c'est Donald Trump qui vient en tête avec 34%. Son suivant immédiat, John Kasich, qui est le gouverneur de l'Ohio, vient loin derrière lui de 18 points, et il est à 16%. Et derrière eux, il y a trois autres qui réunissent au moins 10% des voix, ce qui fait que ce sont ces cinq-là qui ont beaucoup, beaucoup de chances de poursuivre les primaires. Chez les républicains, ce sera dans l'État de South Carolina, le 20 de ce mois. Ce même jour, les démocrates poursuivent leurs primaires dans le Nevada.
Notre envoyé spécial dans le New Hampshire, Thomas Kamilindi. Et puis toujours ici aux États-Unis, la Cour suprême américaine a infligé un revers retentissant au président Barack Obama en suspendant son ambitieux programme de lutte contre le réchauffement climatique. Malgré cette déconvenue judiciaire, la Maison-Blanche a réaffirmé sa confiance dans la légalité de son plan. Réunion des ministres de la Défense de l'OTAN aujourd'hui à Bruxelles. Le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, prend part à cette concertation. Au menu notamment la demande d'aide formulée par la Turquie et l'Allemagne pour faire face à la crise migratoire. Et pour terminer, en France, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, 69 ans, a annoncé aujourd'hui son départ du gouvernement pour prendre en mars la présidence du Conseil constitutionnel, ce qui ouvre la voie à un remaniement gouvernemental dans le pays. Aux journalistes qui lui demandait s'il s'agissait de sa dernière participation au Conseil des ministres hebdomadaire qui se tient habituellement le mercredi, Laurent Fabius a simplement répondu oui. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.